Il y a 2 semaines, en commençant à la lecture du livre de Richard Wurmbrand, qui s'intitule « Rue des Juifs », je suis tombé sur la phrase suivante. Wolfkes, c'est le nom d'un personnage, comprit qu'un chrétien qui n'est pas missionnaire, même à une très petite échelle, ne remplit pas son devoir qui est d'être lumière du monde. J'ai su immédiatement, sans vraiment comprendre pourquoi, que ce serait le thème du message que vous allez entendre aujourd'hui, être la lumière du monde. Il semble que depuis quelque temps, l'Esprit du Seigneur pousse notre communauté à sortir de nos routines confortables, de nos léthargies, pour nous entraîner sérieusement sur le chemin de l'évangélisation. La venue de Stéphane Couillot, qui nous a parlé de ce sujet, a sans doute été une étape importante sur la voie que le Seigneur semble nous montrer. Si tel est le cas, alors le thème de ce matin est une petite pierre de plus dans la construction d'une communauté missionnaire, une motivation et un encouragement supplémentaire pour entrer dans le plan de Dieu. Les 3 passages que je vous ai lus parlent tous de la lumière du monde. Ils ne sont qu'un petit échantillon des très nombreux versets bibliques, aussi bien dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau Testament, qui parlent de la lumière. Non pas celle du soleil qui éclaire notre terre, mais celle que Dieu a créée dès le commencement. On voit ça dans Genèse chapitre 1, verset 3, pour éclairer le cœur de l'homme, pour éclairer son esprit, son intelligence, ses émotions, afin que cet homme sorte des ténèbres d'une vie sans Dieu et connaisse la vie véritable. Je ne voulais pas signaler à la lecture, mais la première lecture, Jésus s'adressait aux scribes et aux pharisiens. Et il leur dit, « Je suis la lumière du monde. Je suis la lumière du monde. » Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Jean 8, 12. Et lorsqu'il s'adresse à ses disciples, Jésus leur dit, vous êtes la lumière du monde. On n'allume pas une lampe pour la mettre sur le boisseau et que votre lumière brille ainsi devant tous les hommes. Matthieu 5, 14, 16. N'est-ce pas étonnant que tantôt Jésus se désigne lui-même comme étant la lumière du monde et que tantôt il désigne ses disciples comme étant cette même lumière. Dans le passage d'Ésaïe 42 que je vous ai lu, Dieu parle de son serviteur comme celui qui est la lumière des nations, c'est-à-dire la lumière pour tous les peuples autres que Israël. Et il lui donne comme mission d'ouvrir les yeux des aveugles spirituels, de libérer les captifs de leur prison spirituelle et les habitants des ténèbres de leur cachot spirituel. Lorsqu'on sait que la chrétienté a reconnu le Christ dans ce serviteur-là, il est en effet étonnant que Dieu attribue la même mission à Jésus et aux disciples de Jésus. Alors, il y a de quoi être rempli d'orgueil, ou bien être complètement écrasé et découragé devant cette tâche qui paraît complètement impossible à accomplir. Mais il y a aussi une troisième voie. Si on croit que Jésus n'a pas parlé pour ne rien dire, on peut être aussi émerveillé de la confiance que Dieu place en ses serviteurs. Et aussi de la façon dont il s'y prend pour que ses disciples, les disciples de Christ, puissent accomplir la mission qu'il leur est confiée. Alors, je vous propose de laisser tomber l'orgueil ou le découragement et d'essayer de comprendre deux choses. La première, c'est de comprendre pourquoi, de quoi Jésus parle-t-il lorsqu'il emploie l'expression « la lumière du monde ». Et la deuxième, c'est de comprendre que Jésus n'est pas un doux rêveur qui surestime la capacité de ses disciples, c'est-à-dire vous et moi, lorsqu'il nous confie la même mission que son Père lui a confiée, c'est-à-dire être la lumière du monde. Alors comment faut-il comprendre l'expression « lumière du monde » ? Eh bien, le mot « lumière », je ne vous l'apprendrai pas, c'est le contraire de « ténèbres ». La lumière, c'est ce qui permet à l'homme de voir clair en soi. De voir clair en soi, mais pourquoi ? En comprenant ce que Dieu lui dit à travers les textes de la Bible. La préposition « du », la lumière du monde, ça a le sens ici de la lumière pour le monde, la lumière indispensable au monde. Lorsqu'il s'adresse aux scribes et aux pharisiens dans Jean 8:12, Jésus leur dit « Je suis la lumière pour le monde, je suis la lumière indispensable au monde, je suis la lumière dont le monde a besoin ». Ne pensons pas que ça a le même sens que cette lumière, comme la lumière du matin par exemple, non. Le mot « monde », il signifie tous les êtres humains, mais tous dans le sens de chaque être humain. C'est ce que Jésus dit en Jean 3:16. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, et vous connaissez la suite. Dieu ne voit pas les hommes comme une masse d'individus anonymes. Dans la parabole du bon berger, il nous est dit que le berger appelle chaque brebis par son nom. Jean 10, 3. Si, comme je l'ai dit, la lumière est ce qui permet à l'homme de voir clair en soi en comprenant ce que Dieu lui dit à travers les textes bibliques, il est légitime de se demander « Mais que trouve-t-on au centre des textes bibliques ?» Eh bien, on trouve une affirmation qui révèle le plan éternel de Dieu pour tous les hommes. Ce plan, c'est Jésus a donné sa vie pour que les péchés des hommes soient pardonnés et pour que les hommes soient sauvés. C'est ça le centre. Il n'y a pas deux centres. C'est ça le centre. Ainsi, lorsque Jésus dit « Je suis la lumière du monde », il ne dit pas autre chose que « Croyez en moi, venez à moi, car je veux vous sauver ». Alors que Jésus puisse sauver les hommes, on le comprend parce qu'il est le Fils de Dieu, parce qu'il n'a jamais péché, et puis parce qu'il a offert sa vie en sacrifice sur la croix. Mais lorsque Jésus affirme à ses disciples « Vous êtes la lumière du monde », est-il aussi question du salut des hommes ? Eh bien, n'ayons aucun doute, il s'agit bien de cela. Et c'est la raison pour laquelle il est si important de comprendre que le Seigneur confie à chaque disciple la mission de sauver les hommes de leurs péchés. Il y a quand même une différence. La seule différence, c'est que le pouvoir de sauver les hommes appartient à Dieu à travers Jésus. Alors que la mission des disciples est de faire connaître aux hommes Jésus-Christ par qui les hommes peuvent être sauvés. Mes frères et sœurs, l'enjeu et le résultat sont exactement les mêmes. Bien sûr, on peut se boucher les yeux et les oreilles pour ne pas voir ni entendre cet ordre de mission. On peut se contenter de savoir que l'on est sauvé sans lever le petit doigt pour que les autres le soient. Car après tout, pensons-nous parfois, mais si les autres refusent de croire, c'est leur problème. On ne peut pas les forcer à croire. Prenons conscience que cet état d'esprit, qui est relativement fréquent parmi les croyants, peut se comparer au fait de voir quelqu'un en train de se noyer et de ne pas lui envoyer la bouée qu'on a apportée de main. En droit pénal, c'est une faute grave, passible de prison, et qui est qualifiée de non-assistance à personne en danger. J'ai bien conscience qu'il y a des comparaisons qui sont dures à entendre. Mais prenons aussi conscience que si notre voisin ou quelqu'un de notre famille ne connaît pas le Christ, c'est une personne perdue. Si rien ne change dans sa vie. Et c'est justement pour qu'il soit sauvé, pour que cette personne soit sauvée, qui qu'elle soit, que nous avons reçu de Dieu la mission de lui parler du salut en Jésus-Christ. Alors pourquoi certains chrétiens ne se sentent-ils pas concernés par cette mission ? Je crois que c'est parce qu'ils n'ont pas encore mesuré la valeur immense de la grâce, la valeur du cadeau immérité du pardon gratuit. Ils n'ont pas encore mesuré non plus ce que ce pardon a coûté à Jésus. Ils n'ont pas encore compris la grandeur de l'amour de Dieu. Lorsqu'on trouve tout naturel d'avoir reçu la grâce de Dieu, comme on trouve naturel d'avoir la santé, on ne s'inquiète pas de savoir si les autres connaissent cette grâce. Pourquoi cette mission paraît-elle si difficile? Elle paraît difficile parce que beaucoup de nos contemporains sont indifférents, critiques ou hostiles lorsqu'on essaye de leur parler de Jésus. Alors, on se décourage rapidement et on finit par ne plus en parler. Et on se réfugie derrière cette bonne raison. Ah, ils ne veulent pas entendre. Cette bonne raison pour laisser l'évangélisation aux spécialistes. Les pasteurs sont des spécialistes, vous le savez bien. Cette mission paraît difficile aussi lorsqu'on évangélise par devoir. Dans l'inconscient d'un chrétien, ils prennent toujours le devoir d'évangéliser. Bien sûr, cela s'accompagne de prières qui demandent à Dieu de nous aider, mais au fond, cela reste un devoir. Alors, lorsque les fruits espérés ne sont pas au rendez-vous, et c'est rare qu'ils le soient, c'est le découragement qui gagne. Et on abdique, on ne fait plus rien. Eh bien, frères et sœurs, je veux vous annoncer maintenant une bonne nouvelle. C'est une vraie chance que les deux dernières attitudes dont je viens de parler ne portent pas de fruits. Pourquoi ? Parce que si elles étaient couronnées de succès, les chrétiens auraient l'impression que c'est grâce à eux que les gens se convertissent. Leurs chevilles et leurs têtes se mettraient à enfler. Ils se rendraient gloire à eux-mêmes au lieu de rendre gloire à Dieu. Et l'orgueil spirituel ne peut porter que des fruits humains qui sont bien pauvres. Essayons de voir quelles sont les conditions pour que l'évangélisation porte des fruits. Eh bien, je n'ai qu'à prendre exactement le contraire des trois attitudes que je viens d'énumérer. La première, c'est d'avoir compris l'amour de Dieu et d'y avoir goûté. Pour cela, il n'y a pas d'autre moyen que de lire la parole, la méditer et d'entretenir avec Dieu une relation vivante à travers la prière et la communion avec les frères et sœurs en Christ. La seconde, c'est d'avoir autant de persévérance pour parler de Jésus aux autres que nous en avons eu pour traverser les épreuves de notre vie. Je suppose qu'aucun d'entre nous n'a baissé les bras au premier échec qu'il a rencontré, ni même au second, ni même au suivant. Jésus, qui connaissait bien la faiblesse de la nature humaine, a fait des promesses à ses disciples au sujet justement de l'évangélisation, afin qu'ils ne se découragent pas et qu'ils sachent qu'ils ne sont pas seuls dans cette mission. En plus, les paroles de Jésus que je vais vous citer, c'est comme son testament spirituel, c'est juste avant qu'il remonte près du Père. Écoutez ce qu'il a dit, vous les connaissez, mais c'est bon de les redire. « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Pouvoir pourquoi ? Eh bien, il le dit maintenant. « Allez donc, faites de toutes les nations des disciples. » Et il ajoute, et c'est ça que nous devons bien comprendre et retenir, « Et voici, je suis tous les jours avec vous jusqu'à la fin du monde. » Non pas pour aller faire les courses à Carrefour, frères et sœurs, ou sur la route des vacances, mais pour parler de Jésus aux autres, parce que c'est de ça qu'il est question dans ce que Jésus dit. Cette promesse, elle est pour chaque chrétien, aujourd'hui encore, pour chaque groupe de chrétiens qui veulent parler du salut en Jésus-Christ. Frères et sœurs, l'Esprit Saint sera toujours, avec le disciple qui a à cœur de faire connaître Jésus aux autres. La troisième condition, c'est de prendre conscience que l'évangélisation ne produira de fruits que si elle est faite par amour. Pas par devoir, par amour. Par amour pour les âmes qui se perdent. Si nous avions autant d'amour pour une âme qui se perd qu'une mère en a pour son enfant qui se drogue, nous ne baisserions pas les bras au premier échec et nous harcèlerions le Seigneur. Comme la veuve de la parabole en face du juge inique, pour qu'il touche le cœur des gens à qui nous parlons de Jésus. Ou qu'il touche le cœur des gens à qui nous allons parler de Jésus. Mais nous le harcèlerions aussi pour qu'il nous donne un cœur missionnaire. C'est-à-dire exactement le même cœur que celui de Dieu. C'est donc dans la prière humble, une prière confiante, une prière persévérante, que l'évangélisation se prépare. aussi bien sur le plan personnel que sur le plan communautaire. Le temps de prière que notre Église a mis en place avant le début du culte n'a d'autre but que nous préparer chacun et tous ensemble à recevoir du Seigneur un cœur aimant comme le sien, pour que l'évangélisation soit au cœur de notre vie personnelle et aussi au cœur de notre vie communautaire. Pour terminer ce message, je voudrais souligner le rapport étroit qui existe entre l'amour que l'on a pour Dieu et l'obéissance que l'on doit à Dieu. En annonçant à ses disciples la promesse qu'ils allaient recevoir l'Esprit Saint, Jésus leur a dit « Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. » Jean 14, 15. Tout le monde peut comprendre cela. Tout le monde. L'amour qu'on dit avoir pour Jésus doit s'incarner dans l'obéissance à ce qu'il demande. Dans Matthieu 28, 18 que j'ai lu il y a une minute, c'est bien un commandement que Jésus donne à tous ses disciples de tous les temps. Allez donc, faites de toutes les nations des disciples. Je me souviens quand j'étais jeune, je pensais que être missionnaire, c'était être expédié en Afrique. Quelquefois, être missionnaire, c'est simplement parler à celui qui est à côté de nous, dans notre propre foyer ou dans notre propre village. Allez donc, faites de toutes les nations des disciples. Comment ? L'amour que nous disons avoir pour Jésus va-t-il s'incarner ? Seigneur, tu m'as accordé la grâce immense de reconnaître que tu es la lumière du monde, alors que je puisse entrer joyeusement dans cette mission que tu me confies. Cette mission d'être, moi aussi, la lumière du monde.